Radio Kapi.
Oh, Kapi. Billy Yvon Lutumba, la présentation.
La décision de rouvrir les banques relève des autorités monétaires à Kinshasa, en particulier de la Banque Centrale du Congo, BCC. C'est en tout cas ce que l'on peut retenir jusqu'à présent comme voie de sortie à la crise monétaire que connaît la ville de Goma. Une réunion sur cette question a été tenue hier dans cette ville et nous vous en parlons à l'ouverture de ce journal. De la santé, l'on sera question ici aussi. Il s'agit du choléra qui prend des proportions inquiétantes dans les zones de santé de Kalemie et de Niemba. On parle déjà d'une centaine de cas, dont un décès enregistré à la sixième semaine. Simon Weteshi, directeur de la radio communautaire Bunyakiri dans le territoire de Kalehe, province du Sud Kivu, est invité de ce journal. Il commente le thème « Radio et changement climatique » retenu cette année pour la célébration de la journée mondiale de la radio. Tout de suite, nous vous livrons les autres contours de l'actualité du pays dans les diverses provinces. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonjour. Une rencontre des acteurs du secteur financier élargi à des représentants du M23 s'est tenue hier mercredi à Goma. On prit part à cette session les responsables des banques, des coopératives d'épargne et des crédits ainsi que les institutions de microfinance. Au centre des échanges, la reprise des activités bancaires dans la ville de Goma afin de faciliter la circulation de la monnaie. Denis Bukesso.
C'est pour apporter des solutions aux cris d'alarme lancés par les habitants de Goma d'avoir un accès difficile aux services financiers qu'une réunion a été convoquée invitant les membres du secteur financier, incluant les responsables des banques, des coopératives d'épargne et des crédits, ainsi que des institutions de microfinance IMF, à reprendre les activités. Cette rencontre visait à discuter de la reprise des activités bancaires dans la ville. Cependant, les représentants du secteur financier ont été unanimes. La décision de rouvrir les banques relève des autorités monétaires à Kinshasa, en particulier de la Banque Centrale du Congo, BCC. Les IMF et les coopératives d'épargne, dont les fonds sont conservés dans des banques commerciales, partagent cette même position. Sans autorisation officielle, il serait impossible de relancer les opérations. Dans ce contexte incertain, la population de Goma est appelée à faire preuve de patience en attendant l'évolution de la situation.
Toujours à Goma, les tenanciers des pharmacies s'inquiètent du fait que si l'aéroport de Goma n'est pas rouvert rapidement, la ville risque une pénurie en médicaments. Au niveau des dépôts pharmaceutiques qui distribuent en gros les médicaments aux pharmacies qui font le détail, certains médicaments ne sont plus disponibles et d'autres connaissent une hausse qui va de 10 à 75%. Écoutez le témoignage de cette pharmacienne qui vient à peine de reprendre ses activités depuis l'occupation de la ville par le M23 RDF. Ses propos ont été recueillis par Rosalie Zawadi.
Certains médicaments sont épuisés, les prix de ceux qui sont disponibles sont revus à la hausse. Nous ne savons pas où trouver les médicaments car les voies d'accès à Goma ne sont pas ouvertes. Plusieurs dépôts pharmaceutiques ici dans la ville sont ravitaillés à partir de Kinshasa et aujourd'hui il n'y a pas de vol. Je ne sais pas par où vont passer les médicaments. Par exemple, avant nous achetions un gramme de moxiclav à 14 500 francs congolais. Aujourd'hui, nous l'achetons à 16 000 francs. La boîte de diclofenac injectable, nous l'achetions à 10 000 francs congolais. Aujourd'hui, la même boîte revient à 17 500 dans les dépôts pharmaceutiques. Nous, les pharmaciens qui revendons en détail, nous sommes en difficulté. En plus, l'argent ne circule pas dans la ville. Dans cette ville, il y a beaucoup de blessés, il y a beaucoup de malades. Si les stocks actuels sont épuisés, nous ne saurons pas nous réapprovisionner.
Contactez le professeur Wasso Bissona, président du conseil d'administration de l'association régionale d'approvisionnement en médicaments essentiels, indique qu'une réunion est prévue ce jeudi à Goma pour faire le point sur la question de l'approvisionnement en médicaments pour la population non seulement de Goma mais aussi celle des territoires qui s'approvisionnent aussi dans cette ville. Nous continuons à demeurer dans cette ville pour parler de ces deux présumés bandits qui ont été lapidés à mort par les habitants du quartier Mugunga, ouest de la ville, ce jeudi. Ce énième incident porte à plus de 20 le nombre des personnes tuées par vindicte populaire. C'est depuis quelques jours, en particulier dans les quartiers de la commune de Karisimbi. Une organisation locale affirme que ce problème devient de plus en plus préoccupant dans la ville de Goma, occupée depuis quelques semaines par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Bernard Nyangi.
Ce sont les habitants en colère qui traquent à présent tout présumé meurtrier
ou cambrioleurs, indiquent plusieurs sources locales. Le responsable de l'ONG Union pour le progrès et la lutte contre les antivaleurs, UPLA, déplore que cette pratique touche à présent l'ensemble de la ville de Goma. Emmanuel Nyakasane.
Nous sommes le 13 février. Il y a déjà plus de 20 personnes tuées dans les cas de justice populaire ici dans la ville de Goma. Pour nous, la première cause serait la fuite des prisonniers de la prison centrale de Goma ce lundi 27 janvier. Et dans cette prison, il y avait des bandits de grand chemin. C'est-à-dire la globalité de la ville de Goma était déjà caractérisée par le système 40 voleurs. Et la population était déjà fatiguée de ce système-là. La troisième raison, c'est la distribution vaille-cavaille des armes. Avec le système Ouazalendo, on a distribué des armes à n'importe qui sans aucune formation.
Un autre cadre de base de Mugunga déplore que ce cadre de vindicte populaire frappe souvent les innocents. Une situation qui, selon ce cadre, est devenue très préoccupante en ces temps où une montée de la violence et de la criminalité attribuée à l'évasion récente des milliers de prisonniers de Mounzenze est constatée dans la ville.
Nous allons traverser pour aller dans le sud Kivu. Plusieurs dizaines de déplacés de Kalehe vivent dans des conditions difficiles dans deux îlots du lac Kivu, à savoir Ishovu et Ibinja. Ces déplacés manquent des soins médicaux, des vivres et des abris. La société civile de la chefferie de Bouavu lance un SOS en direction des humanitaires et des autorités. Cette structure s'inquiète qu'au-delà des situations humanitaires difficiles endurées lors des catastrophes naturelles du mois de mai 2023 à Kalehe, cette population se retrouve encore une fois exposée aux intempéries. Freddy Mbingu est joint par Ronelli Timbonera.
Il y a coupure des médicaments, les gens ne mangent pas, il fait plus d'une semaine qu'il n'y a pas même à manger. Vous allez voir les enfants qui souffrent. D'ailleurs, à Ishovu, il y a une personne qui est morte avant-hier. C'était une maman qui est morte, elle a été atteinte par la maladie, famine aussi. Il n'y a pas quelque chose dans les centres de santé, elle est morte comme ça. Il y a d'autres qui sont en train d'arriver au centre de santé, mais il manque des médicaments, ils rentrent encore chez eux. Et c'est tout un problème. Nous traversons une vie très misérable, une vie très difficile pour les manger, pas de nourriture. Les enfants vont mourir ici, pas de médicaments pour les soins, pas d'eau, parce que on est sur l'îlot, il n'y a pas d'eau, on est en train de consommer l'eau des lacs. Donc la vie est très difficile. À Iju, je n'en parle pas. Iju, c'est une grande île du territoire. Donc c'est un territoire à côté. Mais c'est là qu'on est, on est parti. Donc c'est tout un problème. Nous passons une vie très difficile à cause de cette guerre qui nous est imposée par l'M23 avec le Rwanda. Nous souffrons beaucoup ici à Kalehe. Et c'est tout sur ces îlots là-bas que je viens de citer. Ishovu, Ihoka, Iko et le territoire d'Iju qui est aussi une île.
Le débat sur la recevabilité de l'affaire RDC Rwanda se poursuit ce jeudi devant la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple à Arusha en Tanzanie. Les avocats conseils des deux parties continuent de défiler à la tribune pour plaider leur cause. Dans sa requête, Kinshasa accuse Kigali d'avoir commis diverses exactions dans la partie est de la RDC via ses soldats et leurs supplétifs. De son côté, le conseil du Rwanda continue d'affirmer que la requête de la RDC viole l'acte constitutif de l'Union africaine. Ce débat est houleux entre ces deux parties devant cette juridiction continentale. Actualité à présent dans la province de l'Ituri. De nombreux habitants dans les villages qui ont été la cible d'attaque de la milice Codeco affluent au site des déplacés sécurisés par les casques bleus de la MONUSCO dans le territoire des Djougou. D'autres ont trouvé dans des lieux publics proches des positions des FRDC. Selon des sources concordantes, ces personnes se disent être sous la menace permanente des exactions de ce groupe armé disséminé dans la région. Au moins 4 attaques de cette milice ont été déjouées mercredi par les FRDC et les forces de la MONUSCO, comme l'explique ici Isaac Lemoyope.
Un mouvement massif de population s'observe depuis 3 jours dans plusieurs localités, notamment dans les groupements de Djaïba proche de Fataki et vers Drodro dans les territoires des Djougou. C'est suite à l'intensification des violences depuis dimanche par la milice Codeco. Hier mercredi, un homme a été tué au village de Bassa. Des coups de feu ont été également attendus vers la paroisse catholique de Fataki. Pris de panique, certains habitants ont trouvé refuge dans les bâtiments de l'église. À Drodro, d'autres miliciens de la Codeco ont tenté le même jour de faire incursion, ce qui a obligé de nombreux habitants à fuir au site de Djangi,
qui est sous la protection directe des casques bleus de la MONUSCO. D'autres se sont installés dans la concession de la paroisse à Drodro. De nombreux habitants venus des Tchoro, Boukwa et autres villages affluent au site des Rho. Dans toutes ces entités, les dégâts sont minimisés grâce aux patrouilles mixtes et FARDC MONUSCO qui sont étenses dans la région. La société civile du territoire des Djougou lance un appel au gouvernement de prendre des mesures conséquentes en vue de mettre fin à l'escalade des violences dans ces territoires, mais surtout d'imposer la paix en neutralisant les groupes armés actifs dans la zone. Pour rappel, au moins 4 attaques de la milice Kodéko ont fait environ 60 morts depuis lundi dernier dans cette entité territoriale et 5 autres tués par Zaïre dans la même zone. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans le territoire de Béni au Nord Kivu, la société civile de la localité de Bassoum-Loubena exhorte les autorités à agir sans délai pour mettre fin aux affrontements entre deux groupes armés locaux qui s'affrontent dans la région depuis 2 semaines. À ce jour, ces combats ont occasionné la mort de 11 civils et d'importants déplacements des populations des villages de Nganzi, Mabingi, Kia, Visogo, Kitara, Visiki, Usine, vers Mabalako et Kantine. Au sortir des 2 journées ville morte lundi et mardi, cette semaine, ces structures citoyennes demandent aux déplacés de rester dans leur lieu de refuge en attendant le rétablissement de la paix. Moussoubao Aliamini Tchétché, président de la société civile de Bassoum-Loubena, est au téléphone de Marc Marofimbo.
Ce que nous avons fait 2 journées sans activité, c'est un signal fort aux autorités. Nous pouvons dire à la population de vaguer tout d'abord dans ce premier temps à leurs activités. À notre niveau, nous sommes en train de voir comment multiplier les stratégies et faire continuer les actions administrativement. Il y a des plaintes, il y a des recommandations que nous allons émettre aux autorités. Nous continuons à les faire jusqu'à ce que les autorités, comme ils sont déjà saisis, ils travaillent déjà à nos requêtes. Nous attendons leur suite dans un bref délai, bien sûr, en train de travailler sur notre dossier du groupement Bassoum-Madioué qui a l'objectif 0 groupe armé dans le groupement Bassoum-Madioué. Et à ceux-là qui sont des déplacés d'Ngazi, Kitara, dans la localité Kipabashi, nous leur disons de rester d'abord dans leur lieu de refuge jusqu'à ce que ces groupes armés-là vont quitter les zones qu'ils occupent. Voilà qu'ils nous seront aussi rassurés et qu'ils peuvent aussi revenir dans leur village.
Notez que ce jeudi matin, des unités des forces armées congolaises ont été déployées dans la zone pour contenir la situation. Santé à présent. À Kalemi, 100 des cas de choléra, dont un décès, sont enregistrés à la 6e semaine dans les zones de santé de Kalemi et de Niemba. Annonce faite mercredi à Radio Okapi par le superviseur chargé des soins de santé primaire dans la zone de santé de Kalemi. Germain Kalunga souligne que Kalemi étant une zone en démon épidémique de choléra, une frange de la population consomme l'eau non traitée du lac Tanganyika et de la rivière Lukuga. Et les sites de chloration d'eau sont moins nombreux, ce qui explique la propagation rapide de cette maladie. Germain Kalunga, superviseur chargé des soins de santé primaires dans la zone de santé de Kalemi, est au micro de Paul Mounanga.
Depuis les années 77, nous vivons des pics de choléra chaque jour, voire chaque semaine et chaque année. D'abord, il y a la présence du lac Tanganyika et aussi la présence de la rivière Lukuga qui fait que c'est dans les eaux que les vibrions cholériques sont en train de vivre. Alors, le problème de l'insuffisance de l'eau potable au niveau de la ville et ses entourages, c'est ce qui fait que la population ne consomme pas assez de l'eau potable et voilà le fait d'utiliser l'eau non potable, ce qui fait que le choléra est en train de persister des années en années. Une grande population consomme l'eau de la rivière Lukuga et du lac Tanganyika puisqu'il y a insuffisance de l'eau potable. Les robinets ne coulent pas, ça peut couler aujourd'hui, voire même 2 fois le mois, 3 fois le mois, ce qui fait que la population n'a pas accès à l'eau potable. La zone de santé de Kalemi seule a plus de 400 000 habitants avec moins de 10 sites de chloration installés par la Croix-Rouge. C'est vraiment insuffisant. En cas d'épidémie comme ça, nous allons au-delà même des 100 sites pour que la population ait un peu accès à l'eau potable.
Et puis notez que le service national a remis hier mercredi 600 bancs à 2 établissements scolaires de Kinshasa. Il s'agit des Little Selembao et le complexe scolaire ITI Bumbu où les élèves étudiaient souvent à même le sol. Ces bancs sont fabriqués par des anciens délinquants communément appelés Kuluna devenus aujourd'hui bâtisseurs. Cela après avoir été formés par le service national à Kanyama Kasese. On écoute les explications du lieutenant général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, commandant du service national dans cet extrait proposé par Alain Irong.
Nous sommes dans la continuité de l'opération que nous avions lancée l'an dernier, qui consistait à la remise de bancs aux écoles publiques de la ville-province de Kinshasa sur instruction du commandant suprême des forces armées et du service national. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette enceinte où il y a trois écoles qui ont bénéficié d'un premier lot, j'insiste. C'est un premier lot de 300 bancs sur les 900 bancs qui sont prévus. Il y a trois écoles ici, c'est un très grand complexe où il y a trois écoles et ces complexes regorgent plus ou moins 4500 élèves. Les besoins sont importants, mais on est en train d'avancer mollo-mollo. On arrivera vraiment à résorber les déficits en banc qu'il y a dans cette école dans les tout prochains mois, disons avant la fermeture de l'année scolaire 2024-2025.
Actualité internationale.
Antonjini Awareness Centre est une organisation non gouvernementale dédiée à l'accompagnement des orphelins et des enfants vulnérables, notamment en raison de la pandémie du VIH-Sida. Elle propose également des programmes de soutien aux femmes et aux jeunes de la communauté. Cependant, comme de nombreuses autres structures similaires en Afrique du Sud, l'ONG fait aujourd'hui face aux conséquences directes du gel du plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida et des financements de l'USAID. Ces décisions prises par le président américain Donald Trump plongent les employés et bénéficiaires dans une profonde incertitude.
L'invité.
Radio et changement climatique, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la radio célébrée chaque 13 février. Une occasion de mettre en exergue l'importance de ce média, les défis auxquels peut faire face une radio, mais aussi sa particularité. Nous en parlons avec Simon Wetechi, directeur de la radio communautaire Bunyakiri dans le territoire de Calais, province du Sud Kivu. Il répond aux questions de Rachel Kissé.
Simon Wetechi, bonjour.
Bonjour Rachel.
Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale de la radio. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous?
Oui, madame, si du moins cette journée est célébrée, cela devait être fait d'une manière particulière afin de donner vraiment le vrai sens à celle-ci. Parce que tout ce que nous réalisons par le fait que la radio informe, je prends l'exemple dans notre milieu ici à Bunyakiri, personne ne saurait ce qui se passe dans le monde si du moins la radio n'existait pas. Moi, je pense que c'est une journée qui représente la vie de toute une communauté, la vie de tout un peuple, par le fait que l'information donne aussi la vie.
Informer à travers la radio, quelle en est la particularité?
En fait, la particularité en est que les pauvres et riches, intellectuels et non intellectuels, tous, selon moi, ont la même chance de suivre les informations, contrairement à d'autres moyens d'information. L'autre particularité, c'est que ici chez moi, tout le monde croit à X ou Y information, si et seulement si elle a été relayée par la radio. Voilà un peu la particularité, madame.
Et quels sont les défis auxquels une radio peut faire face pendant cette période où la RDC est attaquée?
Les défis sont énormes. Je peux citer par exemple le changement du programme. Par exemple, ici chez nous, nous avons limité le nombre d'heures des émissions. Au lieu d'ouvrir l'antenne à 5 heures, nous le faisons maintenant à 6 heures. Et au lieu de clôturer nos programmes à 22 heures, ils se clôturent maintenant à 21 heures. Tout ça, c'est parce qu'il y a une situation qui n'est pas bonne dans la zone. L'autre défi, c'est les revenus sont revus à la baisse, si je peux le dire comme cela. Il n'y a pas des activités dans la zone. Et nous, ici, nous vivons aussi à travers les petites choses que nous recevons lorsque nous allons couvrir X ou Y service. Nous rendons un service et il y a quelque chose en termes de motivation, mais cela ne s'observe plus. L'autre défi aussi, ce que nous craignons d'ailleurs, peut-être ça peut arriver d'un moment à l'autre, c'est l'arrêt brusque des activités. Nous, on se ravitaille en carburant au niveau de la ville de Bukavu, mais quand peut-être il n'y aura pas passage, on ne sait pas comment on va fonctionner. Et donc ici aussi, notre défi, c'est la hausse du prix des carburants qui fait à ce que les générateurs puissent fonctionner.
Quelle place occupe encore la radio à cette ère où les nouvelles technologies de l'information prennent de plus en plus place?
En tout cas, moi, je dirais que la même place ici chez moi, elle reste l'outil d'information à masse. Si ailleurs il y a des avancées significatives sur la nouvelle technologie, nous qui travaillons dans les milieux ruraux ici, nous sentons toujours que la radio reste toujours l'outil de l'information par excellence et par conséquent, elle continue toujours à occuper sa place.
Cette année, la Journée mondiale de la radio est célébrée sous le thème « Radio et changement climatique ». Qu'est-ce que cela vous dit? Et en rapport avec ce thème, comment est-ce que votre radio aide-t-elle vos auditeurs à prendre conscience de leurs responsabilités
pour protéger la nature?
Bon, pour moi, ce thème veut montrer à toutes les nations que la radio peut contribuer positivement au changement climatique. La question à se poser reste de savoir aussi l'attention que les décideurs accordent à la radio. Sinon, les radios, selon moi, devaient recevoir des subventions dans les cas de protection de l'environnement pour qu'elles multiplient les sensibilisations. Et pour moi, la plus grande contribution que notre radio joue dans les cas de la protection de l'environnement ou du changement climatique, ce sont là les émissions produites régulièrement, les sensibilisations tenues dans nos différentes antennes pour montrer à la population l'importance de protéger l'environnement, les conséquences liées au changement climatique. Je voudrais rappeler que nous sommes à moins de 30 km du parc national de Kahuzu-Biega. C'est un patrimoine mondial et nous jouons un grand rôle, nous sensibilisons les gens, parfois nous descendons sur le terrain, nous produisons des émissions publiques dans le cadre de sensibiliser la population sur la prise de conscience du changement climatique. Mais ça se fait difficilement, madame, parce qu'on n'a pas de subventions qui nous permettent de bien réaliser ou de bien sensibiliser la population sur le changement climatique.
Monsieur Etechi, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est à moi de vous remercier, madame, et remercier la radio Okapi pour le moment accordé.